Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Vous voulez un whisky?
Ou juste un doigt?
Juste un droit.
Hey! Attention, question perso. Combien de fois vous est-il arrivé d'être sûr de vous à 100% au moment de prendre une grande décision? Pas de place au doute ici. S'il y a bien un lieu où les ténèbres doivent se dissiper, c'est au tribunal. En correctionnel comme aux assises, qu'il soit juge ou juré, décider de l'innocence ou de la culpabilité d'un individu doit découler d'une intime conviction. Au moment de trancher, le bras de la justice ne peut pas se permettre de trembler. Des preuves insuffisantes, des témoignages trop contradictoires, et c'est tout l'équilibre de la balance qui est rompu. Dans une cour, le bénéfice du doute est roi. En principe, l'incertitude profite systématiquement à l'accusé, car en France en tout cas, celui-ci est innocent jusqu'à preuve du contraire. Et là, c'est à mon tour de douter. Comment les magistrats du siège, autrement dit les juges, font-ils la part des choses? Comment se forment les certitudes? À quelles armes les avocats de la défense recourent-ils pour instiller le doute? Autant de questions auxquelles Virginie Duval saura répondre à n'en pas douter. Vous présidez l'USM, l'Union syndicale des magistrats, depuis 2014. Virginie Duval, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Pour balayer mes dernières hésitations, je peux également compter sur notre experte maison. J'ai nommé Caroline Politi, journaliste police-justice de 20 minutes. Bonjour Caroline.
Bonjour.
Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis 100% sûr de vouloir commencer cette émission. Je suis désolé de vous infliger d'entrée une question qu'on pourrait retrouver à l'épreuve de philo, mais quand on se destine à une carrière de magistrat et notamment de juge, comment apprend-on à douter? Est-ce que c'est une notion qu'on vous enseigne à l'École nationale de la magistrature, par exemple?
Oui, parmi les autres enseignements, il y a cette notion-là du doute. On peut aussi expliquer que c'est une qualité intrinsèque des magistrats, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est évalué le plus possible au moment du recrutement. Il y a un grand oral notamment, et il y a des questions de culture juridique qui nous permettent de douter et qui nous permettent de montrer aux examinateurs cela. Les magistrats ont cette notion, cette culture du doute. On l'apprend aussi à l'école. Il y a beaucoup de formations sur la validité d'un témoignage, le recueil de la parole. Il faut que la manière de poser les questions permette une réponse qui ne soit pas guidée. Donc, il y a aussi la construction de la personnalité. Donc, il y a beaucoup de manières de nous apprendre, de nous conforter dans cette culture du doute.
On précise à l'écrit le terme de doute. C'est quelque chose qui est inscrit dans les cours, on parle du doute en tant que tel?
Non, c'est une notion qui est sous-jacente dans tous les enseignements. C'est la manière dont on devient magistrat. On apprend à toujours vérifier. Quand on a une information, il faut la vérifier pour dissiper ce doute. Quand on prend une décision, on doit être certain.
Mais toi, ma fille, tu erreras sans fin dans les ténèbres et le doute, comme la nuit d'hiver qui tombe sans bruit.
Ouais, donc Virginie Duval, on évoquait le côté un petit peu justement l'enseignement du doute à l'école de la magistrature. Est-ce que le fait de porter une robe de magistrat, ça fait de vous, quand vous l'enfilez, une sorte de professionnel du doute, un douteur professionnel?
La robe, elle est extrêmement importante parce que elle nous met un poids au sens propre comme au sens figuré pour prendre la décision. Elle permet également de gommer, alors pas notre personnalité, mais de nous aider à nous extraire de notre personnalité. Il y a souvent des questions sur le magistrat homme ou le magistrat femme pour en matière de divorce ou pour certaines affaires particulières en fonction de l'infraction. Il n'y a pas de magistrat homme ou femme. Une fois qu'on a nos robes, on prend une décision en tant que magistrat. Et cette robe, elle est importante en valeur, en symbole, à la fois pour le justiciable et également pour nous.
Très bien. Alors, je vais enchaîner avec une petite citation d'Éric Dupond-Moretti, hein, qu'on connaît bien. « La leçon d'Outreau, c'est que le doute doit toujours, obstinément, profiter à l'accusé, même lorsqu'il est trop pauvre, trop laid, trop bête, et qu'en plus, il couche avec sa belle-sœur. » Alors bon, j'imagine que derrière vos enceintes ou sous votre casque, ça vous fait sourire. Nous aussi, évidemment, ça nous a fait sourire au moment de la mettre. Mais elle est associée à l'un des plus grands fiascos judiciaires français. Caroline, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur cette affaire Outreau, justement?
Donc, c'est une affaire en fait qui commence au début des années 2000 par des accusations de viol des quatre enfants de Myriam Badawi et Thierry Delay. Ça prend tout de suite des proportions énormes. Ils accusent près de 70 personnes de tout leur quartier, etc. Et en 2004, quand s'ouvre le procès, on a l'impression vraiment d'avoir affaire à un réseau de pédophilie monstrueux. On est juste après l'affaire d'Outreau. Et déjà, au cours du premier procès, on sent un peu que les témoignages des enfants se délitent. C'est pas clair, etc. Il y a déjà au premier procès 7 personnes sur les 17 accusés qui sont acquittées. Un an plus tard, il y a un second procès en appel, puisqu'il y a 6 autres personnes qui ont fait appel. Et là, Myriam Badawi et Thierry Delay reconnaissent avoir menti. Donc, il y a les 6 autres acquittements. Et tout de suite, ça prend des proportions énormes. Jacques Chirac présente des excuses d'État. Et en fait, en quoi cette affaire est un fiasco? Il y a tout au niveau de l'instruction du juge Burgot. Normalement, un juge d'instruction est censé instruire à charge et à décharge. Là, on a le sentiment qu'il s'est enferré dans des certitudes, qu'il a pris les paroles des enfants pour argent comptant, et que du coup, justement, la notion de doute est un peu passée à la trappe. C'est ce qu'a voulu montrer Éric Dupond-Moretti dans sa plaidoirie. Et c'est peut-être, en fait, la question qu'on peut poser à Virginie Duval. En quoi, en fait, le doute, c'est vraiment la clé de voûte de notre justice?
On pourrait résumer sa phrase en disant « l'habit ne fait pas le moine » et qu'il ne faut pas se fonder une idée sur l'impression que peut nous faire une personne. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi replacer dans le contexte. Il existait à ce moment-là un courant de pensée selon lequel la parole de l'enfant devait être prise avec certitude. Dès qu'un enfant disait quelque chose, il devait être cru. Il y avait des associations qui militaient en ce sens-là. Ça a mis aussi en évidence la fragilité de la parole de l'enfant et le fait qu'on ne recueille pas la parole de l'enfant de n'importe quelle manière. Il y a beaucoup de choses qui ont été évoquées sur cette notion de certitude, de doute. Et cette affaire, elle a été importante pour montrer que d'abord, ce n'était pas un seul homme qui était responsable de tout ça, mais c'est l'ensemble de l'institution judiciaire et que le doute doit profiter à l'accusé et qu'on doit vérifier les dires des victimes. C'est le rôle de l'instruction et également aussi des procès.
T'as le droit d'inventer n'importe quelle histoire, ça m'est égal. L'essentiel, c'est qu'il ne se doute de rien.
On parlait des enfants justement dans l'affaire Outreau. Je rappelle que vous avez été juge des enfants. Et est-ce que justement au cours de votre carrière, vous avez géré ce doute? Comment vous l'avez géré? Comment vous l'avez intégré à votre profession tout simplement?
Alors, le juge des enfants, il a deux casquettes. Il a à la fois la casquette pénale, c'est-à-dire qu'il sanctionne les mineurs qui commettent des actes de délinquance, y compris des crimes parfois. Et il a la casquette protection, donc les mineurs eux-mêmes en danger et donc qu'il faut protéger. Le doute, il est à plusieurs instants, c'est-à-dire que lorsqu'on est au pénal, le doute profite à l'accusé. Et d'un autre côté, ce doute-là, on le retrouve aussi en matière d'assistance éducative, l'intérêt supérieur de l'enfant, là, doit primer sur ce doute. C'est-à-dire que quand on s'interroge sur l'idée d'un placement d'un enfant parce qu'il y a des éléments qui permettent de penser qu'il a été victime de violence ou d'abus, même si au pénal, le doute profite au mis en cause, en assistance éducative pour protéger l'enfant, le doute profite à l'enfant. Le doute, il est à différents moments et il est pris en compte de manière différente. Il y a un autre moment où le doute profite à quelqu'un d'autre qu'à l'accusé. C'est en matière de droit du travail pour le licenciement pour cause personnelle. Dans ce cas-là, le doute profite aux salariés.
Quand vous parlez de licenciement pour cause personnelle, il s'agit de quoi exactement ?
C'est pas la faute lourde ou le licenciement économique. C'est une faute personnelle liée aux salariés.
Est-ce que vous discutez justement de doutes avec vos collègues magistrats, que ce soit après une affaire compliquée ou en buvant peut-être un coup au bar ?
Oui, avant de prendre une décision, de toute façon, on peut la mettre en délibéré. On peut prendre du temps pour prendre une décision et c'est important. Et l'autre point, c'est la collégialité. La collégialité d'une décision, c'est extrêmement important parce que ça nous permet de discuter chacun de nos arguments, de les remettre en cause. Il faut éviter d'être seul. D'ailleurs, ça avait été la conclusion de l'affaire Outreau, je reviens un petit peu en arrière. Il y avait eu une commission d'enquête parlementaire après cette affaire qui avait dit qu'il fallait éviter qu'un juge d'instruction soit seul. Le Parlement avait voté à l'unanimité une belle loi prévoyant la collégialité. Et donc ça, c'était en 2007. Et en 2017, faute de moyens, elle n'a pas pu être appliquée. Et donc, on est revenu sur cette loi.
Ouais, comme quoi, on n'apprend pas toujours de nos erreurs.
Non.
Le mensonge, la tromperie qui engendre la méfiance sont ses méthodes.
J'ai un peu spoilé en introduction, mais c'est vrai qu'on aime bien ça, Justin Droit. En quoi la notion de bénéfice du doute est intimement liée à celle de la présomption d'innocence ?
La présomption d'innocence, c'est le fait qu'on est présumé innocent tant que notre culpabilité n'a pas été établie, donc prouvée. Il faut prouver la culpabilité pour que la personne soit condamnée, donc il faut la prouver avec certitude. S'il n'y a pas de certitude de la culpabilité, c'est qu'il y a un doute, et donc le doute profite à l'accusé.
C'est QFD.
Dans le doute, Mériadoc, il faut toujours suivre son flair.
Lors d'un procès d'assises, le président demande aux jurés s'ils ont une intime conviction. On l'a mis entre guillemets pour vraiment souligner l'importance du terme. En quoi c'est différent des certitudes ?
S'il y a un quelconque doute, on ne peut pas condamner. Mais l'intime conviction, elle se forge en fonction des éléments, de différents éléments qui nous sont apportés. Et c'est la conjonction de ces éléments qui nous permet de nous faire notre intime conviction. On parle de quelque chose d'éminemment personnel. Et donc, c'est en cela que c'est pas la même chose que certitude. C'est-à-dire que la certitude, c'est quelque chose de purement matériel. Vous avez grillé un feu, vous l'avez grillé ou vous ne l'avez pas grillé. Là, on est sur cette notion de certitude. Vous êtes mis en cause pour une notion d'agression sexuelle. Il y a à la fois l'acte matériel d'agression et la volonté et la conscience de commettre une agression sexuelle qui doit être prise en compte. Donc, on n'est pas sûrement uniquement dans le purement matériel.
C'était une citation du juge Courroy qui disait « Il n'y a pas d'intime conviction fondant toute décision, sans doute préalable ». Est-ce que le doute, justement, ça commence dès le début de l'instruction ? Est-ce que c'est vraiment tout au long de la procédure, le doute, c'est presque la clé de voûte de tout ?
Oui. Quand on part avec des certitudes, c'est qu'on risque de se tromper. Tout doit être vérifié. Donc, par exemple, dans le début d'une affaire, on prend en compte ce que dit la victime et on vérifie si ces éléments, on cherche des faits établissant ce qu'elle dit. Et on ne se contente pas de ce que pourrait dire le mis en cause. Il faut absolument vérifier, tout vérifier. On appelle ça fermer des portes dans le cadre de la formation et à l'instruction. On doit vérifier à charge, à décharge, pour, si ce n'est s'approcher de la certitude, en tout cas permettre d'avoir des éléments forgeant une intime conviction.
On va faire un petit distinguo justement entre correctionnel et assises. Donc dans un tribunal correctionnel, c'est un magistrat ou un collège de magistrats qui décide de la culpabilité ou non d'un prévenu. Est-ce que ça change quelque chose sur la question du doute ?
La collégialité, oui, parce que plus on est pour prendre une décision. Plus on réfléchit ensemble, et mieux c'est. Ça permet de nous extraire de nos certitudes, ça nous permet de confronter nos idées et nos convictions ou nos doutes. Donc, c'est quelque chose d'important. Là, actuellement, le principe, c'est la collégialité. Il y a des exceptions, mais qui sont pour des infractions les moins graves. Donc, on juge en correctionnel à juge unique. Là, il y a dans le projet de loi qui est en cours, dans le projet de programmation pour la justice, un projet de réforme pour augmenter le juge unique et le prévoir aussi en appel. Nous y sommes opposés parce que la collégialité, c'est un gage de qualité de la justice et que si on peut l'admettre pour les infractions les moins graves en première instance, il faut être sûr que la personne qui serait condamnée et qui voudrait faire appel, elle puisse voir son appel jugé par 3 magistrats. Ça, cette notion de collégialité, elle est importante parce que c'est ça qui permet de dissiper le doute et de prendre des meilleures décisions.
Est-ce que vous, justement, ça vous est arrivé au cours de votre carrière d'être vraiment dans le flou et de pas vraiment savoir vers quoi vous orienter? Et justement, cette discussion avec les autres magistrats vous a un peu...
Oui, ça arrive à tout le monde, mais c'est pas compliqué. Si on doute, c'est qu'il n'y a pas de condamnation. Si on n'arrive pas de la même manière à motiver une décision, c'est que c'est pas la bonne. Une décision, elle doit pouvoir être motivée, c'est-à-dire on doit écrire les raisons pour lesquelles on a pris cette décision. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui nous hante, c'est-à-dire que si on a condamné, c'est qu'on était, qu'on avait cette intime conviction. Alors, il peut arriver que vous soyez mis en minorité, et là, vous vous dites la décision que la collégialité a prise n'est pas bonne, n'est pas celle que moi j'aurais prise, mais c'est la collégialité qui l'emporte.
Bien sûr.
Et avec les jurés, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont plus ou moins prompts à douter que les magistrats?
C'est extrêmement intéressant, le travail avec les jurés. Souvent, ils arrivent avec, je dirais pas des certitudes, mais des avis parfois tranchés. Eh bien, ils ont aussi conscience de l'importance de leur mission, de l'acte de juger. Et au moment du délibéré, chacun peut s'exprimer s'il le souhaite. Et donc, ils ont aussi ce doute, cette notion de vouloir bien faire et donc d'échanger sur les arguments. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que là, on voit que c'est la collégialité, le nombre. On est tous ensemble qui permet de cheminer vers la décision.
D'éliminer le doute.
Encore une fois, s'il y a un doute, c'est pas compliqué. Il n'y a pas de condamnation.
C'est très clair.
Il n'y a aucun doute, le mystérieux guerrier était un Sith.
Toujours par deux, ils vont.
Alors, je vois arriver une longue question. Alors, j'en profite pour rappeler que je suis entouré donc, de Virginie Duval, présidente de l'USM, l'Union syndicale des magistrats, et de Caroline Politi, experte police-justice de 20 minutes. La question, préparez-vous. Alors, le doute, comme l'intime conviction, on va mettre l'emphase sur le mot intime, a quelque chose de forcément personnel. Comment un juge réussit-il à s'extraire de son histoire personnelle, de ses préjugés, pour rendre une décision de justice au nom du peuple français? Ça, effectivement, ça lui donne toute son importance. Est-ce que l'intime conviction, les doutes, d'une certaine manière, est-ce que ça ne donne pas un côté un peu arbitraire?
Non. Il n'y a pas d'arbitraire, on doit fonder notre décision. Cette notion d'intime conviction, elle est rappelée avec une solennité très importante au moment de la cour d'assises pour les jurés, c'est-à-dire que avant de se retirer pour délibérer, le président de la cour d'assises lit aux jurés et à la cour un texte du code de procédure pénale qui dit que sous réserve de l'exigence de la motivation de la décision, la loi ne demande pas compte à chacun des juges et jurés composant la cour d'assises des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de leur conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette question question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction ? C'est quelque chose de très impressionnant, je trouve. Ce texte, c'est un beau texte. Il est dans la salle de la cour d'assises. Il est aussi dans la salle de délibéré et il est lu. Et donc, on part en délibéré avec ce poids de la décision qui doit être prise. On ne demande pas à chacun à l'extérieur de nous exprimer sur la décision qu'on va prendre, mais c'est la collégialité. Donc comment on fait pour s'extraire ? Donc déjà, il y a des qualités intrinsèques de chacun. Savoir douter, on l'apprend, c'est quelque chose qu'on évoque tout au long de notre carrière et qu'on peut voir en formation continue. Il y a toujours cette notion de collégialité, je me répète, pour remettre en cause ses propres arguments. Et puis, l'appel est important aussi pour permettre une meilleure décision de justice.
Caroline, tu voulais rebondir.
Oui, ben, je vais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais justement, on parlait d'appel. Et comment, en fait, sur une même affaire, deux décisions peuvent être radicalement opposées en première instance et en appel ? Alors, je pense notamment, il y a plein d'exemples, mais je pense au cas Maurice Agnelet. Donc, en 2006, c'est un avocat qui est jugé pour le meurtre d'Agnès Leroux, l'héritière d'un palace niçois. Ça se passe 30 ans avant, je crois que c'est en 77. Et pas de corps ni d'aveu à aucun moment. En première instance, il est acquitté. Mais en appel, il est condamné très très vite, en moins de 2 heures, à 20 ans de réclusion, alors qu'aucun fait nouveau n'a conforté l'accusation. Qu'est-ce que ça vous évoque, deux procès qui se terminent différemment ?
C'est pas parce que c'est la même affaire que c'est le même procès. Deux procès pour la même affaire peuvent être totalement différents. Alors je ne vais pas me prononcer sur cette affaire-là parce que c'est quelque chose de très particulier. Mais on peut peut-être citer un autre exemple, l'histoire d'un quelqu'un qui est poursuivi et jugé pour viol. Premier procès, la victime est là. La victime expose devant la cour d'assises ce qui lui est arrivé. Elle témoigne, elle peut répondre à ce que dit l'accusé. Mais il faut avoir conscience que les assises, c'est extrêmement lourd, c'est pesant et pour les victimes, ça peut être particulièrement compliqué. Dans ce premier procès, la personne est condamnée. Il fait appel. Deuxième procès, la victime ne veut pas venir. Elle n'en peut plus d'avoir à revivre tout cela. Elle refuse de venir. C'est plus le même procès. Vous n'avez plus la parole de la victime, l'impression qu'elle peut faire, les réponses qu'elle peut apporter au témoignage de l'accusé. Et donc là on repose sur d'autres témoignages, sur le rôle du procureur. Donc c'est la même affaire, c'est le même mis en cause, mais c'est pas le même procès. Et donc ça peut avoir une incidence aussi. Et puis parfois on voit que des accusés qui ont eu des mots malheureux ne disent pas la même chose devant le deuxième procès. Donc un procès ne fait pas l'autre. Donc c'est pour ça qu'il y a des décisions qui sont différentes.
Je n'ai jamais douté de toi une seconde, c'est formidable.
Je reviens à un côté un petit peu intime. Est-ce que le doute que vous pouvez avoir lors d'un procès vous suit à la maison ? Est-ce que vous emmenez du travail à la maison qui peut un peu vous hanter pendant une affaire ?
Oui. Tout le monde. Je ne pense pas qu'il y ait des magistrats qui ne rentrent pas avec leur travail à la maison, comme d'autres. Hein. Ce sont des professions très, très, très prenantes. Ça peut nous miner de l'intérieur. Je suis persuadée que c'est toutes les familles des magistrats qui sont aussi qui passent un peu de temps au tribunal parce que leur père, leur mère n'est pas totalement disponible.
Alors, on va attaquer une dernière petite notion, c'est est-ce que une décision de justice a le même poids quand elle est rendue au bénéfice du doute ?
Oui, une décision au bénéfice du doute, c'est une relaxe ou un acquittement. Quelqu'un est innocent, il est pleinement innocent. On ne peut pas être à moitié coupable ou à moitié innocent, on est innocent ou on ne l'est pas. C'est cette notion-là qui doit être retenue. Après, le bénéfice du doute, c'est une décision pleine et entière, effectivement.
C'est-à-dire que si jamais il manque de preuves, entre guillemets, pour appuyer la culpabilité de quelqu'un, pour vous, elle aura la même valeur que des preuves qui démontrent que justement la personne est innocente.
Elle est innocente, la personne. Voilà. Après, ce que certaines victimes ont du mal à comprendre, et je peux l'entendre, c'est que la vérité judiciaire n'est pas la vérité immanente. La vérité judiciaire, c'est la vérité qui résulte d'un procès. On parlait tout de suite de deux procès qui n'aboutissent pas à la même condamnation. Eh bien, il y a une vérité judiciaire à un moment donné, une vérité judiciaire à un autre moment. Évidemment, on peut entendre que les victimes ne comprennent pas ça parce que, elles, c'est leur vérité. Mais la vérité judiciaire, ce n'est pas la vérité.
Caroline, justement, en tant que journaliste, il t'arrive d'interviewer des familles de victimes à l'issue d'importants procès. Comment est-ce qu'elles prennent une décision de justice au bénéfice du doute ?
Ça dépend des procès. L'image qui me vient en tête, c'est peut-être le procès de Jawad Ben Daoud, puisqu'il a été extrêmement retentissant. Il y avait énormément de parties civiles. Et là, on voyait, il y avait une diversité de réactions. Certains comprenaient, certains même ont demandé, des parties civiles ont demandé au cours du procès à ce qu'il ne soit pas condamné, parce que, pour mille raisons, mais en tout cas parce qu'il doutait de sa culpabilité. Et pour d'autres, au contraire, c'était vécu comme une forme de trahison de la justice. Après, c'est des gens également qui souffrent et qui, évidemment, ont du mal à entendre qu'un procès, c'est pas la vérité, c'est ce qu'on peut prouver. Et ce qu'expliquait la juge Prévost-Després, il n'y avait aucun élément qui me permettait d'affirmer avec certitude que Jawad Ben Daoud savait qui l'hébergeait. Et donc, c'était vraiment variable. Certains étaient outrés, vraiment, on les sentait meurtris. Et d'autres, au contraire, le prenaient plutôt de manière sereine. Après, il y a un autre procès qui se tiendra en novembre, donc les choses changeront peut-être, comme on disait. Pour l'instant, c'était juste un procès de première instance.
Donc, autre procès, autre vérité.
Peut-être.
C'était le mot de la fin. La séance de psy est levée. Intime conviction, bénéfice du doute, intimement lié, ces deux notions n'ont pas été évidentes à appréhender pendant la préparation de l'émission. J'espère n'avoir perdu personne en chemin et que l'importance du doute dans un procès apparaît plus clairement à ceux qui ont tenu jusqu'au bout. J'en profite pour la remercier dès à présent car cet épisode lui doit beaucoup. Membre du Quatuor Police Justice de la rédaction de 20 minutes, tu as pensé cet épisode et su composer avec mon ignorance sur le sujet, ignorance crasse, je le signale. C'est notre première collaboration sur Juste un droit et j'espère qu'on en signera de nombreux autres. Merci.
Dur avec toi-même.
Merci Caroline. Virginie Duval, merci à nouveau de vous être prêtée au jeu. J'imagine qu'en votre qualité de présidente de l'Union syndicale des magistrats, l'USM, ce n'est pas un exercice qu'on vous propose souvent. Quant à vous, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines sur Pipa, SoundCloud et dans votre smartphone pour un nouvel épisode. En attendant, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page iTunes et ne doutez pas trop longtemps avant de nous mettre 5 belles étoiles. Si vous avez des questions, des remarques ou juste envie de tchatcher, rendez-vous sur la page Facebook de Juste un droit. D'ici là, n'oubliez pas que justice soit faite.
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt ?
Juste un droit.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.